Vous écoutez, on lit pour vous.
L'héritage d'une combattante, le Kung-Fu au féminin. Un texte commandité paru le 26 mai 2025 dans la presse. Position. Salut à la fondatrice, saluée. Sur ces paroles, les élèves de l'école de Shaolin Wing Chun Kung-Fu d'Argenteuil exécutent un geste fluide en marque de respect. Chaque cours commence et se termine ainsi, en hommage à celle qui a conçu l'art martial traditionnel qui y est enseigné. Voici l'histoire de Yim Wing Chun et de son œuvre. Un conflit amoureux. D'après la légende, Yim Wing Chun naît en 1735 dans un village de Guangdong, en Chine. Dès l'enfance, son père lui enseigne secrètement le kung-fu. Réputée pour sa beauté, la jeune femme tombe amoureuse, mais son projet de mariage est compromis lorsqu'un seigneur de la guerre la convoite. Le tyran lui lance un défi. Si elle parvient à le vaincre en duel au printemps prochain, il la laissera tranquille. Faute de quoi, elle devra l'épouser. La nouvelle se répand. Ying Wing Chun rencontre la bonzesse Ning Mui, qui fait partie des 5 anciens du temple de Shaolin du Sud, obligés de fuir la répression politique. Véritable légende du kung-fu, Ning Mui lui enseigne en quelques mois seulement les rudiments d'un système de combat mis au point pour les femmes. Vaincre l'agresseur. Le printemps venu, Ying Wing Chun est prête à affronter le seigneur de guerre. La jeune femme retourne la force et le poids de son adversaire contre lui-même. Elle esquive avec grâce et fluidité. Elle frappe avec précision des points vulnérables. Son agresseur tombe sous les applaudissements du village. La jeune femme épouse l'élu de son cœur. Ensemble, ils fondent une école et Yim Wing Chun développe un nouveau style de kung-fu. Lorsqu'elle s'éteint en 1795, son mari perfectionne le style auquel il donnera le nom de son épouse en son hommage. Le Wing Chun traversera les siècles et sera éventuellement popularisé en Occident par le célèbre Bruce Lee. Entre légende et histoire. Très peu d'écrits de cette époque demeurent, car les adeptes de kung-fu s'opposant à l'empereur étaient alors persécutés. Ce récit fait donc partie de la tradition orale. Que certains détails aient été embellis ou non, le message demeure le même. Nulle femme n'a à accepter ce qui va à l'encontre de ses convictions, dit Louis Roy, directeur et enseignant de Wing Chun Kung Fu. Une activité physique complète. Le Wing Chun est un art martial traditionnel chinois axé sur l'efficacité à courte distance. Ce style reste accessible à des personnes de tout gabarit et de tout âge. C'est vraiment pour tout le monde. Ce n'est pas juste une question de force, mais aussi de technique et de souplesse, témoigne Isis, élève et assistante enseignante. Les cours améliorent la forme physique globale en combinant force, endurance, flexibilité, rapidité, précision et capacité cardiovasculaire. Souvent, les hommes sont forts, mais moins souples. Et c'est tout le contraire chez les femmes, explique Louis Roy. On travaille à corriger nos faiblesses et à tirer parti de nos talents pour favoriser tant la santé physique que mentale. Des valeurs universelles. Il faut patience et persévérance pour progresser dans le Wing Chun. Mentalement, je suis plus calme depuis que je pratique le kung-fu, ajoute Isis. C'est aussi un art martial qui invite à mettre son ego de côté dans une quête d'équilibre entre la confiance en soi et l'humilité. La recherche de la paix plutôt que la violence aide dans tous les aspects de sa vie, que ce soit au travail ou avec ses proches, fait remarquer Louis Roy. Un système d'autodéfense adapté. Le Wing Chun ne devrait être utilisé en guise d'autodéfense qu'en cas d'extrême nécessité, quand il s'avère impossible de désamorcer la confrontation ou de prendre la fuite. Certains coups redoutables seraient d'ailleurs interdits dans les règlements de n'importe quel autre sport. Les techniques enseignées sont particulièrement efficaces en situation de combat rapproché et peuvent neutraliser une agression physique soudaine. Aucun art martial n'est meilleur qu'un autre. C'est davantage une question de discipline dans la pratique. C'était L'héritage d'une combattante, un texte commandité paru le 26 mai 2025 dans la presse.
Six choses sur lesquelles je ne dépense pas mon argent. Un texte de Nicolas Bérubé, paru le 25 mai 2025 dans la presse. L'auteur financier Ben Carlson a dressé une liste amusante l'autre jour. Il a énuméré différents articles ou activités sur lesquelles il refuse de dépenser son argent. Personne ne peut tout avoir, a-t-il écrit. Je pense qu'il est bon d'avoir quelques règles strictes sur les choses pour lesquelles vous dépenserez ou non de l'argent. Dans sa liste, on trouve des cafés Starbucks, des draps luxueux, le golf, l'alcool haut de gamme et des souliers confortables de style « papa dans la quarantaine » comme « On Cloud »,« Oka » ou « des New Balance blancs ». Ça m'a fait réfléchir à tout ce que je choisis moi-même de ne pas acheter. Voici six exemples. Le magasinage. Dernièrement, j'ai suggéré qu'un adulte pouvait très bien vivre avec un budget de $60 de vêtements par mois. Un lecteur m'a taquiné, « Tu exagères. » Je suis sérieux, $60 par mois, ça fait $720 par année ou $3600 tous les 5 ans. La personne qui a besoin de plus de $3600 en vêtements tous les 5 ans a intérêt à gagner un salaire dans les 6 chiffres comme acteur, mannequin international ou influenceur TikTok. Sinon, entre H&M, Decathlon, l'aubainerie, la dernière chasse et les friperies, s'habiller n'a jamais été si peu coûteux. Le truc, bien sûr, c'est de ne pas voir les bas prix de la fast fashion comme un feu vert pour passer ses fins de semaine au Carrefour Laval, mais bien comme une occasion de s'habiller à une fraction du prix que devaient payer les générations précédentes. Véhicule de luxe. Je pense que j'ai dû recevoir un vaccin rare quand j'étais jeune, celui qui nous rend insensibles aux chars. Ma famille et moi utilisons les services d'autopartage. Mais si j'ai besoin un jour d'avoir ma propre machine à paresse, ce sera une Honda Civic, une Toyota Corolla ou l'équivalent en électrique, à moins de $15 000 sur Marketplace. Aucun plaisir à vendre des placements pour acheter un bien de consommation inutilisé 95% du temps, qui se déprécie plus vite que les Maple Leafs en série éliminatoire. La science est de mon côté. La recherche nous dit que les gens qui possèdent un véhicule luxueux ne prennent pas plus de plaisir à le conduire que les gens qui possèdent un véhicule ordinaire. Comme l'a dit un observateur perspicace, première classe ou classe économique, l'avion arrive à destination en même temps. Le câble. Chaque fois que je mets les pieds à la bibliothèque, c'est comme si les livres prenaient vie et se battaient pour sauter dans mon sac à dos. Tellement à lire et si peu de temps. Ne pas avoir le câble réduit l'attrait de s'écraser devant la télé pour regarder le curling en reprise et être inondé de publicité. Un vélo ultra léger. En plus de mon vélo de tous les jours, j'ai un vélo de route qui me sert pour les grandes distances. Mon vélo de route a 20 ans cette année et il roule comme un neuf. Acheter un vélo récent me donnerait une monture plus légère. Mais pourquoi? Pour moins forcer dans les côtes? Pour moins forcer dans les côtes, pas besoin d'un nouveau vélo. Juste à rester chez moi. Mais c'est plate chez moi parce que je n'ai pas le câble. Alors je vais rouler. Commander de la pizza. Je ne fais jamais livrer de pizza. Je la cuisine moi-même. Faire sa propre pâte à pizza est un jeu d'enfant. Je peux vous envoyer ma recette si vous voulez. En plus, c'est une bonne carte à avoir dans sa manche pour les fêtes d'enfants, souper d'amis, etc. La personne qui n'aime pas la pizza maison n'est pas encore née ou n'est jamais venue chez nous. C'est juste du positif. Meubles neufs. On trouve ce qu'on cherche sur Marketplace ou alors on récupère des meubles familiaux. Justement, je tape cet article sur la table de salle à manger qui était chez mes parents quand j'étais petit. On a passé d'innombrables Noëls autour de cette table. Il y a les marques de mes roues de tricycle sur les pattes. Je vois encore ma mère l'utiliser l'après-midi pour y plier les brassées de vêtements de la famille. Cette table est chez moi depuis que mes parents ont changé leurs meubles. Elle ne va nulle part. Dans 50 ans, si je suis encore ici, c'est sur cette table que je prendrai mes repas mous, habillés en mou et sans doute avec le cerveau pas mal mou. La table sera encore debout. Je m'appuierai sur les souvenirs pour ne pas perdre l'équilibre. C'était 6 choses sur lesquelles je ne dépense pas mon argent. Un texte de Nicolas Bérubé, paru le 25 mai 2025 dans la presse.
Aubaume, le passe-muraille. Une entrevue réalisée par la rédaction, parue le 1er juin 2025 dans le carnet thématique « Je lis autochtone ». Diane Aubaume-Sawin, alias Aubaume, bédéiste et cinéaste d'animation vivant à Montréal, a réalisé plusieurs films à titre de cinéaste indépendante et 6 œuvres d'auteur en collaboration avec l'Office national du film du Canada, ONF. Elle publie ses bandes dessinées à la maison de poésie Loi de Cravant et en anglais chez Drawn and Quarterly. Au fil des ans, elle a créé un type de récit bien à elle, teinté de naïveté et de réserve, empreint d'humour et de grande humanité, qui intègre fréquemment des détails autobiographiques. Toutes ses œuvres sont imprégnées de gravité et de candeur, tant par leurs propos que par la simplicité du dessin. Cet étonnant équilibre leur procure une qualité de fable urbaine, poétique et bien ancrée dans le réel. Cette année, nous avons droit à la réédition de la bande dessinée « J'aime les filles », adaptée également en court-métrage sur le site de l'ONF, ainsi qu'à la traduction française de sa BD « Le passe-muraille » aux éditions Anénorak. Votre bande dessinée « Le passe-muraille » est inspirée d'une nouvelle de Marcel Aimé. D'où vous vient cet intérêt pour cette nouvelle en particulier? Mon intérêt commence avec un petit journal qui s'appelait le 48 HBD. Pendant 48 heures, plusieurs bédéistes se trouvaient ensemble dans un lieu commun pour faire une planche, car le magazine est grand. Le thème cette année-là était le mur. Moi, tout de suite, j'ai pensé à la nouvelle « Le passe-muraille » parce qu'elle m'avait marqué durant mon enfance. Je trouvais ça le fun que le personnage puisse passer à travers les murs. Si j'avais un vœu à faire dans le domaine du fantastique, ce serait d'avoir ce pouvoir pour prendre des viennoiseries, des bonbons et toutes sortes de choses dans les pâtisseries françaises. À la fin de l'histoire, le passe-muraille reste coincé dans le mur et je pensais que c'était de sa faute. En fait, maintenant que je suis adulte, je trouve qu'il est plutôt sympathique et qu'il est davantage victime de la situation. C'est donc ainsi que j'ai commencé à concevoir plein de petites cases qui sont devenues une BD. Dans votre adaptation graphique de l'œuvre, vous représentez le personnage de Dutilleul dans votre style. Que pouvez-vous nous dire sur votre version de l'homme qui acquiert la capacité de traverser les murs? Comment avez-vous fait pour vous l'imaginer, pour vous le représenter? J'assume un style très, très naïf. Je ne veux pas essayer quelque chose d'autre parce que moi, j'aime bien ce style. Mes personnages sont tous un peu pareils. Ils sont tous ronds, ils ont tous le même nez et ils ont tous les mêmes pantalons. J'aime la simplicité. Ce sont des petites libertés que j'apprécie. Pour du tilleul, je lui ai mis un petit chapeau et une barbichette, puisqu'il est décrit comme ça dans l'œuvre originale. Monsieur Dutilleul est appelé ainsi car Dutilleul, c'est une plante utilisée pour aider à s'endormir. Il est quelqu'un qui, au départ, est un peu ennuyant, mais qui devient tout le contraire. Il n'est jamais méchant ni vengeur. C'est un être romantique. Tout ce qu'il veut, c'est l'approbation et l'admiration des autres. Vous racontez l'histoire en deux langues, en français et en abénaki. Comment avez-vous procédé pour la traduction? J'ai demandé à Philippe Charland, professeur de langue abénakise, de traduire le texte dans la langue de ma nation, et il a accepté. Cela m'a tellement fait plaisir! C'est le fun de pouvoir comparer les deux langues pour ceux qui veulent apprendre l'abénaki. Philippe n'a d'ailleurs pas hésité à traduire la bande dessinée, car il trouvait que ce serait un bon outil pour les étudiants. Lorsqu'il a travaillé le texte, il a mis la traduction littérale en dessous, après l'abénaki. Dans les langues autochtones, c'est très imagé. C'est ce qui donne la poésie de la langue. On peut comprendre à quel point cette langue est drôle et poétique. Nous avons parlé un peu de ton style d'art qui tend vers le naïf. Est-ce que c'est un choix conscient de parfois aborder des thèmes plus sérieux par le biais de ton style? L'art naïf, j'y tiens. Je souhaite que ce soit ce que c'est, comme ça vient. Je préfère approfondir le sujet, l'histoire et l'écriture. Je prends d'ailleurs des cours pour perfectionner mon style d'écriture et ma grammaire. Je n'étais pas très bonne en français à l'école et je voulais apprendre à écrire comme les écrivains et écrivaines. J'ai entendu un jour Amélie Nothomb répondre à la question « Comment fait-on pour écrire ?» Par « bien, écrit ». Écrit, c'est tout. Alors non, ce n'est pas un choix conscient d'aborder des thèmes sérieux par l'art naïf, c'est mon style tout simplement. C'était « Obom, le passe-muraille », une entrevue réalisée par la rédaction, parue le 1er juin 2025 dans le carnet thématique « Je lis autochtone ».
Miraculé de l'orage, un texte d'Ariane Kroll et Chloé Bourquin, paru le 28 mai 2025 dans La Presse. Papa, pourquoi je suis à l'hôpital comme ça? Lorsqu'Emmanuel Kamal est resté coincé sous un énorme arbre qui était tombé sur lui durant un violent orage, les soignants ont craint pour sa vie. 7 opérations plus tard, l'adolescent est hors de danger, mais devra s'astreindre à une importante réadaptation. Son père souhaite une meilleure surveillance des arbres urbains. Le 29 avril 2025, Emmanuel Kamal a quitté la maison d'un ami en fin de journée pour aller prendre le métro. Tout ce que je sais, c'est que, quand je suis parti, il faisait noir, nous a raconté l'adolescent de 15 ans dans sa chambre d'hôpital. C'est la dernière chose dont il se souvient de son trajet sur un trottoir de grande allée dans Hunsic. Peu après, un violent orage s'est déchaîné dans le quartier, faisant chuter un gros arbre sur lui. À l'urgence, la première nuit, il parlait de survie de 1%. Nous sommes maintenant à 99%, presque à 100%, souligne son père Élie, qui reste à ses côtés en tout temps. Emmanuel a subi 7 opérations, reçu de très nombreuses transfusions sanguines et passé une douzaine de jours dans un coma artificiel. « Papa, pourquoi je suis à l'hôpital comme ça ? » a-t-il demandé à son réveil. Un second drame. Pourquoi était-il à l'hôpital? Il n'était pas le premier à se poser la question. Le soir du 29 avril, alors que M. Kamal était à la maison avec son plus jeune fils, la géolocalisation du cellulaire d'Emmanuel lui a indiqué que l'aîné était à l'hôpital du Sacré-Cœur. Je n'ai pas pensé que c'était négatif. Je me suis dit qu'il y était allé avec des amis. Je ne savais pas. J'ai appelé par curiosité. Emmanuel était aux urgences, mais on ne pouvait lui donner de détails au téléphone. Quelques minutes plus tard, les policiers sonnaient chez lui et offraient de l'amener à l'hôpital. « Qui t'a sauvé ?» demande M. Kamal à son fils aîné. « C'est comme ma mère, » souffle Emmanuel. L'arbre de Grande Allée n'est pas le seul drame à s'être abattu sur l'adolescent et sa famille. En décembre 2024, la maman, Roba Youssef, a succombé à un cancer. Moins de 5 mois après avoir perdu sa femme, Eli Kamal est passé près de perdre son fils aîné. Eli Kamal se souvient « Je me suis dit, s'il nous quitte, il va aller chez sa mère, et s'il reste, il va rester avec nous. » Ce n'est pas pour contredire la médecine, raconte M. Kamal, qui est très croyant. La médecine a fait son bon travail, mais il y a quelque chose de divin dans l'histoire d'Emmanuel. Malgré la tragédie, il y avait des lueurs d'espoir. L'arbre n'est pas tombé sur la tête d'Emmanuel, souligne-t-il. Son corps était caché par l'arbre, mais il était conscient et criait à l'aide, ce qui a alerté un voisin qui a appelé le 911, raconte M. Kamal. Comme si tout était planifié à la seconde près pour qu'il soit sauvé malgré tout. On passait de 1% de survie à presque 100%. De nombreuses blessures. Emmanuel a une épaule et une clavicule cassées. Il devra subir des tests pour son pied et sa jambe gauche qu'il ne peut pratiquement pas bouger. Et son bassin a dû être reconstruit, donc on ne va pas le mettre debout avant 2 mois, raconte son père. Ensuite viendra la réadaptation qui s'annonce longue. C'est pas facile. Le temps pour moi s'est arrêté le jour même, glisse M. Kamal. Emmanuel ne peut pas attendre lorsqu'il a besoin de changer de position. Au début, c'était de 50 à 100 fois par nuit. Aujourd'hui, de 2 à 4 fois. Heureusement, nous avons un support familial incomparable, très solide. L'arbre qui est tombé sur son fils se trouvait sur le domaine public, signale M. Kamal. Lorsqu'il est retourné le voir, il l'a trouvé pas en bonne santé. Une partie importante de l'intérieur du tronc était brunâtre et vous pouviez enlever des morceaux, dit-il en montrant des images qu'il a prises. J'espère que ça ne se répète jamais. Que ce soit une occasion pour que la ville, pour que toutes les villes, fassent une sorte d'inventaire, de mise à jour. C'est important pour le public et surtout pour responsabiliser les gens. La ville, c'est une question de sécurité. La première fois où Emmanuel a pu sortir en fauteuil roulant sur le terrain de l'hôpital, il ne voulait pas qu'on s'approche des arbres, raconte son père. Nous, on veut que les gens se sentent en sécurité autour des arbres. Un brave qui porte bien son nom. Près du lit d'Emmanuel, il y a un chandail rouge des Hurricanes de la Caroline offert par ses amis. Nous lui avons demandé le nom du joueur qu'il comptait y faire inscrire. Mon numéro, 38, avec mon nom en arrière, a répondu cet ailier droit des braves Dunsick. Emmanuel, c'est vraiment un fier compétiteur qui adore jouer, performer, gagner. C'est un très bon attaquant avec un tir redoutable, témoigne l'entraîneur de son équipe de hockey, Louis-René Auclair. Chaque fois que tu l'as dans ton équipe, tu sais qu'il va te marquer 36-40 buts dans l'année. C'est un bon marqueur, un fin joueur qui apporte beaucoup à l'équipe, souligne M. Auclair, qui a créé une collecte sur GoFundMe pour les Kamal. La famille a eu ça vraiment rough. Et puis, Eli, c'est un gars qui donne beaucoup au suivant, qui est très humble et qui ne dira jamais qu'il a besoin de quoi que ce soit. Des étés plus orageux à venir. un magnifique ciel bleu qui s'assombrit en quelques minutes pour laisser place à un orage violent. Ce genre d'événement, relativement rare aujourd'hui, pourrait devenir de plus en plus fréquent à l'avenir avec les changements climatiques. Un expert interrogé par la presse donne quelques réflexes à adopter pour mieux s'y préparer. Comment se créent les orages? Les orages naissent lorsqu'une masse d'air chaud et humide rencontre une masse d'air froid, ce qui crée une instabilité atmosphérique. Quand un orage s'approche, on peut observer dans le ciel un cumulonimbus, un énorme nuage capable de produire d'intenses précipitations accompagnées de tonnerres, d'éclairs, voire de tornades ou de grêles. Les orages sont des phénomènes généralement très brefs et très localisés, de sorte que les précipitations intenses qui s'y forment sont de courte durée. On parle d'orages violents lorsque les pluies qu'ils génèrent sont particulièrement abondantes, que les rafales culminent à 90 km/h ou plus, ou qu'ils se forment de la grêle, avec des grêles longues d'au moins 2,5 cm de diamètre. Pourquoi les orages vont-ils être plus fréquents à l'avenir? Les orages se créent dans des conditions très chaudes et humides. Or, avec les changements climatiques, ces conditions vont survenir plus fréquemment dans les prochaines décennies au Québec. On s'attend à ce qu'il y ait plus d'orages violents, et avec des quantités de pluie plus abondantes, indique Christopher McCree, spécialiste en simulation et analyse climatique chez Uranos. Et la saison orageuse risque de commencer plus tôt et de finir plus tard. Pour ce qui est des tornades, de la foudre ou de la grêle, en revanche, il est plus difficile pour les scientifiques de prédire si ces phénomènes surviendront plus ou moins fréquemment. Que faire pour s'y préparer? Pour se préparer à y faire face, l'expert recommande de rester à l'affût des veilles et des alertes émises par Environnement Canada. Le plus important, c'est de rester chez soi en cas d'alerte, indique-t-il. Si on est à l'extérieur, mieux vaut s'abriter au plus vite dans une voiture ou dans un bâtiment et s'éloigner des fenêtres au cas où celles-ci se briseraient. Il conseille également d'éviter de s'aventurer en voiture dans des rues inondées. Même s'il y a peu d'eau, le risque de rester coincé est grand en cas d'orage. Si vous conduisez, l'idéal est de trouver un endroit sécuritaire où vous arrêter et de rester dans le véhicule le temps que l'orage passe. C'était « Miraculé de l'orage », un texte d'Ariane Kroll et Chloé Bourquin, paru le 28 mai 2025 dans La Presse.